Merci pour le choix du sujet, qui est à mon avis, peut-être la question. Alors, je ne suis pas philosophe, hein, je suis un peu en dehors de mon domaine d'expertise premier, mais la question qu'on se pose ce soir est peut-être celle qui, de manière la plus concrète, pose une question fondamentale sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions philosophiques sur la morale, des choses qui sont peut-être un peu floues et très culturelles. Là, on va voir, j'ai donné au cours du débat, qu'il y a vraiment une question fondamentale et les réponses sont difficiles à trouver. Alors, je suis très content d'avoir Wolfram comme adversaire, on se connaît bien. Et là, je pense qu'il sera d'accord qu'on est un peu loin de notre domaine habituel, enfin de notre champ d'évolution habituelle, en particulier parce qu'il va nous manquer ce qui d'habitude permet de régler toute discussion, qui sont les expériences ou les preuves de théorème, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que là, à la fin, ça va être dur de savoir qui a raison, qui a tort, parce qu'on ne va pas pouvoir faire une expérience pour pouvoir quelle est la mesure observée. Pour finir, donc j'étais là pendant le débat avec Luc Ferry, donc la barre est un peu haut. Ça va être difficile de faire quelque chose d'approchant, mais bon, on va essayer. Alors peut-être, ce qu'on peut faire, c'est que si à un moment, ce que je dis vous paraît vraiment trop confus ou trop opaque, c'est-à-dire que je suis complètement en train de décrocher, levez discrètement votre carton rouge, et si je commence à voir une dominante rouge dans l'assistance, j'essaierai de rectifier le tien. Alors, le premier point, c'est à mon avis, quelle est la question qu'on pose. Parce que la question telle qu'elle est formulée dans le flyer est « L'humain est une machine ou esprit ?» Donc c'est une question, alors évidemment, que tous les gens qui tournent autour de l'apprentissage artificiel, les neurosciences et autres, voient souvent dans les discussions avec les gens. Donc c'est une question que j'ai posée, parce que je sais que ce débat va avoir lieu depuis des mois, donc j'ai un peu posé la question à des gens d'horizons variés. Et la chose notable, c'est que les gens ont une opinion extrêmement tranchée. En général, ils répondent non. L'homme n'est pas une machine et la discussion s'arrête là. Alors que, comme on va voir, il y a trois termes dans la question, humain, machine, esprit, les trois sont difficiles. Alors, machine est difficile à définir, humain est très difficile à définir, esprit est très très difficile à définir. Donc il y a déjà un paradoxe qui est que les gens ont une conviction forte sur le sujet, enfin le groupe. Et aussi, ce qui est intéressant et qui est particulièrement net ici, c'est que c'est une question qui est colorée émotionnellement, c'est-à-dire que les gens vont mal le prendre, c'est-à-dire que si on leur arrivait à leur démontrer qu'ils sont des machines, ils seraient vexés. Et même là, donc, c'est plus qu'émotionnel, hein, c'est moral, parce que je suis en train d'accuser l'homme d'être une machine, donc c'est formulé comme un crime. Voilà, donc la première chose que je vais faire, c'est essayer de préciser un peu les trois termes, donc humain, machine, esprit. Et puis de reformuler l'accusation à ma manière. Alors, étant plutôt un scientifique, on en a un peu discuté avant, je ferai un mauvais procureur parce qu'un vrai scientifique est toujours plein de doutes. Donc je crains de ne pas pouvoir avoir une accusation aussi violente qu'on voudrait, mais bon, je vais faire de mon mieux. Alors, le premier terme qui est à mon avis le plus facile à définir, et qui n'est déjà pas évident du tout à définir, c'est machine. Si on cherche en dictionnaire, essentiellement, c'est les machines à laver et puis les magnétoscopes, enfin, les télé, choses comme ça. Donc ça ne va pas tellement nous suffire pour cette discussion. Donc est-ce qu'une machine est quelque chose qui peut être produit artificiellement, c'est-à-dire qui peut être manufacturé, c'est-à-dire un humain serait capable de la construire pièce par pièce? Alors je ne sais pas si c'est une définition qui est satisfaisante, parce que j'imagine que si... Et c'est une chose qui commence à se faire dans certaines branches de scientifiques, qui est la biologie synthétique. C'est-à-dire, si on avait les plans complets d'une bactérie et qu'on était capable de la reconstruire atome par atome, est-ce que ce serait une machine? Ça se discute. Enfin, et puis après, on peut faire un argument longtemps. Alors, si une bactérie, oui, est-ce que ce serait une souris? Si on va refaire une souris atome par atome, ce serait une machine. Donc j'imagine que ce n'est pas une définition suffisante. Est-ce que c'est quelque chose qui a été conçu par l'humain, c'est-à-dire que on n'a pas laissé... Alors évidemment, on m'a rappelé que j'étais athée, donc c'est avant. L'opposition à la créée par l'humain, c'est le résultat de la poussée évoluée de la pression évolutionniste. Donc, est-ce qu'une machine, c'est quelque chose qui a été conçu depuis le début par un humain? Est-ce qu'on accepte de mettre dans une machine n'importe quelle structure pour prendre la nature, c'est-à-dire que est-ce que, par exemple, il y a des baromètres qui, à l'époque, qui fonctionnaient avec un cheveu. Avec un cheveu, et puis en fonction de l'humidité, en fonction de la... Non, c'était l'hygromètre. En fonction de l'humidité, le cheveu était plus ou moins long. Est-ce que ça, c'est acceptable? Parce que là, on récupère un bout d'une chose préexistante dans l'univers, donc on ne comprend pas forcément les spécifications, on le met dans la machine. J'imagine que ce n'est pas acceptable non plus, parce que sinon, on pourrait commencer à mettre des bouts de cerveau dans la machine, et puis là, tout deviendrait compliqué. Ah, un peu moins vite. Alors, c'est un de mes défauts, et ça fait des années que j'y travaille. Je vais faire un effort ce soir, mais et je fais pareil en anglais avec un accent horrible, donc c'est une catastrophe. Bon, j'ai essayé. Ou bien, est-ce qu'une machine, c'est quelque chose qui, simplement, n'est pas humain? Et donc, je pense que ce n'est pas la définition qu'on va prendre ce soir, parce que sinon, le débat s'arrête là. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, à mon avis, étant donné les discussions que j'ai eues avec des gens, il y a un côté réductionniste qui déplaît fortement. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas le fait que ça choque autant l'homme et une machine, c'est qu'on arriverait à le réduire à des choses parfaitement compréhensibles, déterminées, déterministes et simples. Donc la définition que je vais prendre pour une machine dans la suite, c'est qu'une machine est un assemblage de pièces élémentaires qui ont un fonctionnement parfaitement déterministe et défini. C'est-à-dire qu'il y a une définition mathématique exacte qui est ce qu'on appelle une machine de Turing. Je ne vais pas entrer dans le détail si ça vous intéresse. Il y a plein de choses sur le web à ce sujet-là. Mais en gros, c'est un ordinateur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a un état dans sa mémoire et de manière parfaitement déterministe, il avance par pas de temps discret, donc ce n'est pas continu. Et à chaque pas de temps, la configuration de la mémoire à la fin du pas de temps est totalement déterminée par la configuration de la mémoire. Donc imaginez une mémoire pleine de chiffres, donc des millions de chiffres, et puis une manière déterministe, en fonction de cette configuration de chiffres, de trouver la configuration suivante. Donc voilà, donc pour humain, la définition standard, c'est machine de Turing, mais en gros ici, ce sera un ordinateur. Alors après, qu'est-ce qu'un humain? Alors là, c'est là que je pense qu'une partie de l'auditoire ne va pas être d'accord du tout. Donc à nouveau, bon, moi je suis un pragmatique. Donc, bon, clairement, le débat n'est pas à propos de l'apparence physique. On n'est pas en train de dire est-ce qu'un humain est une machine, au sens est-ce qu'on peut remplacer son corps par une machine, ou est-ce que son corps est une machine. On s'intéresse au processus cognitif. Et là où il y a un problème, qui je pense va apparaître beaucoup plus clairement comme dans l'argumentaire de Wolfram, c'est que vous définissez un humain par rapport à ce que vous ressentez. Donc vous avez une expérience subjective, vous avez l'impression d'être quelque chose, et vous projetez sur autrui ce que vous ressentez, parce que vous les voyez, ils sont faits comme vous, ils ont une tête, des bras, c'est des humains, ils ont des parents. Mais le problème, c'est que ça ne permet pas de... Cette définition-là, votre expérience subjective, ne permet pas de définir un humain à l'extérieur de vous. C'est-à-dire que, étant donné que vous ne pouvez jamais vous mettre à la place d'un autre humain, vous ne pouvez pas dire « il est humain parce qu'il ressent la même chose que je ressens ». La seule chose qu'on peut faire, et à nouveau c'est Turing, c'est qu'on peut avoir une espèce de définition comportementale, qui en général c'est ce que vous avez, peut-être sans vous en rendre compte, mais quand vous êtes convaincu que votre voisin est humain, c'est parce que vous interagissez avec lui, et le discours qu'il tient vous fait reconstruire un modèle de ce qui se passe dans sa tête, et vous vous dites « bon, ben, il fonctionne comme moi, il s'est cogné à la table, il a dit qu'il avait mal, moi aussi je ressens ce que ça fait, donc je pense que ça marche pareil. » Mais donc ce qu'on appelle le test de Turing part de... Donc encore lui, encore Turing, mais là le test de Turing c'est 1950, la machine de Turing c'est les années 30. Le test de Turing, l'idée... Donc Turing s'est posé cette question en 1950, est-ce qu'une machine peut penser? Donc il avait un statement qui était un peu moins violent qu'elle est humaine. Et puis la réponse qu'il a apportée, c'est sous forme d'un test. Donc il y a un humain qui dialogue avec une entité, et on ne lui dit pas si c'est un humain ou une machine, mais il a le droit de parler avec cette entité aussi longtemps qu'il veut. Il peut lui dire bonjour, est-ce que ça va? Comment est la journée? Ah, ça ne va pas, pourquoi? Donc, et si à l'issue de cette discussion, il se trompe la moitié du temps, la machine, on considère un statut d'humain, au moins d'un point de vue comportemental. On va dire, elle passe le test de Turing. Alors, décider si ce test est suffisant, c'est-à-dire décider si je vous donne je vous mets un programme de chat. Donc il faut un truc où vous ne voyez pas l'apparence physique. Donc il y a un ordinateur ou une personne qui est quelque part, vous discutez avec en échangeant par un système, par un clavier, un écran, vous discutez avec. Est-ce que ça va vous suffire pour dire que ce truc est humain. Donc vous discutez, si vous voulez, 3 mois avec, hein, c'est pas un problème, vous parlez tous les soirs avec. Au bout de 3 mois, vraiment, vous êtes convaincu. Ce truc a des états d'âme, des fois il est malheureux, des fois il a une bonne journée, des fois il n'a pas une bonne journée, il aime l'art, il aime la poésie. Il faut voir que c'est un test qui peut aller extrêmement loin. Et si ce test-là ne vous suffit pas, donc la première question qu'il faut vous poser, c'est pourquoi vous êtes convaincu que les gens autour de vous sont conscients. Ça, c'est une base. Et le deuxième, c'est que dans ce cas, en tout cas, je ne pense pas qu'on peut tellement régler la question ici. Alors, ça, je pense que ce sera une partie de ce que le frère m'abordera, mais c'est un vrai débat philosophique. Donc, il y a des philosophes qui discutent de ça depuis des années, et en particulier sur la notion de zombie, qui est un zombie serait un humain qui passe au test de Turing, mais dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de perception subjective. Voilà. Donc, au bilan, si vous n'êtes pas d'accord avec le test de Turing, demandez-vous pourquoi vous pensez que je suis conscient, vu que tout ce que vous avez même moins que le test de Turing, mon sujet en l'occurrence, pour nous. Alors, pour finir, le troisième terme, c'est qu'est-ce que l'esprit ? Donc là, aucune idée. Moi, ça, je ne sais pas trop. J'imagine qu'ici, c'est en opposition à machine. Donc, on dit. Voilà, on propose les deux termes. Si je veux donner une définition la plus pragmatique, donc qui tourne dans mon champ d'expertise, je dirais que c'est en informatique qu'on appelle un algorithme, c'est-à-dire qu'on oppose un ordinateur et un truc physique qui fait quelque chose, un programme dedans, qui le programme lui-même est représenté par une configuration physique, généralement d'électrons sur des substrats, des machins, mais on peut très bien définir ce que doit faire l'ordinateur de manière abstraite, et c'est ce qu'on appelle un algorithme. C'est-à-dire qu'on peut décrire, d'abord je vais avoir une valeur, ensuite je vais lui ajouter ça, on peut le faire à la craie. Ce truc-là, cet algorithme, ça, c'est un fragment d'information que je peux vous transmettre verbalement, que vous pouvez mettre sur une feuille, qu'on peut ensuite mettre dans un ordinateur, qu'on pourrait coder de 1000 manières différentes. Donc pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de l'esprit, c'est-à-dire c'est la caractérisation abstraite informationnelle d'un truc, d'une structure, ou ensuite quand elle est instanciée dans le plan physique, elle devient un dispositif cognitif. Alors là, il y a beaucoup de mots un peu compliqués, mais en gros, c'est la recette, si vous voulez, ce serait à un morceau de musique, c'est la partition. On voit très bien que ce n'est pas la même chose. La musique, qui est quelque chose, une expérience qui va vous induire quelque chose, mais la partition, quand la partition est sur la feuille, la musique n'existe pas encore. Donc c'est la différence entre la caractérisation abstraite, informationnelle de la chose, et par rapport à son existence physique. Voilà. Donc maintenant, tout ça étant dit, je reformule la question de manière beaucoup plus molle, malheureusement. Je dirais qu'il peut exister une machine qui passera le test de Turing. C'est-à-dire que la thèse que je défends à 95%, c'est un peu compliqué, donc tant qu'on n'a pas fait l'expérience et que ça marche, mais je ne vois pas d'opposition de principe, et c'est peut-être ce que je vais défendre un peu par la suite, je ne vois pas d'opposition de principe au fait qu'une machine pourrait passer le test de Turing. Donc maintenant, si je reformule ça comme une accusation, j'accuse les humains de ne pas pouvoir prouver qu'ils ne sont pas des machines. C'est-à-dire, j'accuse les humains de ne pas pouvoir trouver un critère suffisant de manière à prouver qu'ils ne sont pas des machines. Le jour où les robots envahissent la Terre, il y a une porte fermée, vous n'avez qu'un petit microphone pour discuter derrière la porte, de mon point de vue, un humain ne pourra pas vous prouver qu'il est humain. Il pourra lui poser toutes les questions que vous voudrez, discuter avec lui, il parlera de sa mère, de son père et de sa vie antérieure. Il ne pourra pas vous prouver, vous ne pourrez pas être sûr que ce n'est pas un ordinateur qui se fait passer pour un humain. Alors, de mon point de vue, je ne sais pas à quel point tout ça vous choque, de mon point de vue, la raison pour laquelle ça choque les gens, en général, c'est que la signification de machine, donc on ne peut pas s'empêcher d'avoir des opinions sur les choses en fonction de notre environnement direct. Donc les gens pensent, quand on dit machine, ça évoque des choses. Ça évoque ce qu'ils voient dans leur vie tous les jours. Enfin, là, on revient à la machine à laver, la télé, des choses comme ça. De mon point de vue, ces machines-là représentent une infime fraction des machines, donc déjà des machines qui existent en ce moment, avec des ordinateurs puissants, qu'on ne rencontre en général pas au premier rue, et des machines potentielles, c'est-à-dire qu'on revient à la définition de machine de Turing, ce que pourrait être une machine en principe, en s'affranchissant de contraintes physiques au sens de quelle taille elle peut faire, combien de courant elle consomme, etc. Donc, dans la suite, je vais discuter 3 limitations que je vois souvent revenir dans les discussions avec des gens qui sont perçus à propos des machines, et juste essayer de vous montrer que non, elles n'ont pas ces limitations-là, elles ont peut-être d'autres. Je pense que à nouveau, Wolfram va tomber dessus. Mais il y a des limitations très pragmatiques, très concrètes, que la plupart des gens pensent que les machines n'ont également pas. Donc la première limitation, c'est la complexité. On imagine qu'une machine est quelque chose d'assez simple, finalement. Alors c'est un peu court parce que le terme machine englobe plein de choses différentes. Donc un moulin à vent, qui est une machine très simple, on voit à peu près. Un métier à tisser du 19e siècle, ça commence à devenir un peu plus compliqué, parce que il y a déjà un peu, ça ressemblait furieusement à un ordinateur, ou un piano mécanique. Vous avez un côté information qui est encodé dans un substrat qui lui-même est traduit pour une autre chose, on revient à la musique de tout à l'heure. Et puis un ordinateur moderne, qui est vraiment là, il y a un saut quantitatif qui est absolument énorme. Donc, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec l'informatique, mais il faut savoir qu'un ordinateur moderne, un ordinateur que vous achetez au supermarché, pas un truc de recherche de la NSA et de Google, un ordinateur que vous achetez au supermarché a une mémoire de l'ordre de plusieurs milliards de caractères, mais vraiment un ordinateur tout ce qu'il y a de standard pour faire du traitement de texte et aller regarder Facebook. Une mémoire de 8 milliards de caractères ou 16 a une capacité de stockage de 1000 milliards de caractères. Il faut savoir qu'une page de texte fait à peu près 1000 caractères. Donc, quand on dit 8 milliards de caractères, c'est-à-dire qu'on a 8 millions de pages de texte dans la mémoire, et la capacité de stockage, c'est souvent 1000 milliards, 2000 milliards. Et ces ordinateurs, à nous, tout ce qu'il y a de simple, font des dizaines de milliards de multiplications par seconde, enfin d'opérations arithmétiques. Et à nous, c'est pas des propos un peu flous, c'est extrêmement précis. J'ai des expériences qui tournent où vous faites un produit de matrice, un truc de maths, où il y a plein de chiffres, et il fait réellement 20 milliards d'opérations en une seconde. Un ordinateur, tout ce qu'il y a de standard. Vous voyez ce que ça fait, ça veut dire que si chaque humain faisait 3 multiplications, on en aurait 24 milliards, et c'est ce que fait un portable standard d'un supermarché par seconde. Donc, dire que, utiliser déjà le terme machine pour caractériser un moulin avant un métier à tisser un ordinateur, c'est déjà un truc qui est un petit peu curieux. C'est aussi curieux que de dire, de croire qu'une fois qu'on a dit un arrangement d'atomes, on a dit quelque chose. Un arrangement d'atomes, c'est un grain de sable, ou c'est un rhinocéros, ou c'est une planète. On voit bien qu'on n'a pas dit grand-chose. Si je vous dis, ah oui, c'est un arrangement d'atomes, donc, la phrase est très mal partie. À part si je suis physicien fondamental, mais sinon, il y a peu de moments où... Donc, en fait, ma conviction, c'est que la complexité fait que ça navigue à des niveaux de réalité assez différents. Les exemples de calcul qu'une machine comme ça est capable de faire, il y a un truc qu'on appelle la simulation par élément fini, qui est quelque chose qui est utilisé énormément pour faire de la prédiction, que ce soit en météo ou pour tester des voitures qui s'écrasent dans des murs, c'est l'exemple canonique. Ce qu'on fait, c'est qu'on sait très bien comment se comporte la matière quand on regarde un tout petit bout. Donc après, ce qu'on fait, on demande à l'ordinateur d'appliquer cette règle sur plein de petits bouts, et ça donne des comportements. Donc par exemple, vous allez avoir on simule une voiture, donc dans la mémoire de l'ordinateur, c'est pas une expérience réelle, on définit en volume de manière mathématique la voiture, et après on va dire, bon voilà, elle arrive à 200 km dans un mur, et on calcule par tranche de temps extrêmement rapprochée, on calcule pour chaque élément de matière, qu'est-ce qui se passe, les souvenirs de force, la chauffe de telle manière, etc. Et vous vous retrouvez avec, à la fin, une voiture simulée qui s'écrase sur un mur. Donc vous avez cette voiture qui s'écrase. Donc c'est aussi des trucs utilisés pour faire des films en image de synthèse. Le niveau de description que vous auriez n'est pas de dire le cube numéro 4322 a bougé de 3 micromètres et le cube 3 milliards. C'est pas le niveau de description qui vous conviendrait. Donc vous seriez à un niveau de réalité plus haut, vous diriez ah oui, une voiture rouge qui s'écrase dans un mur, la portière explose, le pare-brise explose. Donc la complexité fait que, de la même manière que vous êtes capable dans votre environnement de tous les jours, vous choisissez un niveau de description, un niveau de vous envisagez votre environnement à un niveau adéquat de représentation. Pour les machines, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que les machines deviennent tellement complexes qu'on ne peut pas décrire le fonctionnement d'une machine comme un ordinateur de la même manière qu'on va décrire un moulin à vent. Un moulin à vent, il y a un axe, il y a des trucs, le vent souffle, ça tourne comme ça. Après, on pourrait aussi descendre, mais en gros, le principe de fonctionnement de la machine est assez simple. Un ordinateur moderne qui fonctionne, c'est pas le bon niveau. Donc, le premier point, ce serait celui-là. Ce serait qu'il faut vraiment être conscient qu'il y a des degrés de complexité qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Donc, une manière simple de résumer ça, c'est si vous pensez que la complexité est vraiment la raison pour laquelle les machines ne peuvent pas avoir d'humanité, enfin, démontrer toutes les capacités comportementales d'un humain, dialoguer comme nous. Est-ce que, quelle serait votre position si on simulait un humain atome par atome dans un ordinateur? Après, et je suis conscient que beaucoup ici vont dire que ce n'est pas suffisant, on ne peut pas se contenter des atomes. Mais au moins en termes de complexité, si on commence à toucher à des ordres de grandeur de dizaines de milliards, centaines de milliards, milliers de milliards, il est probable qu'on va arriver à simuler des bouts de tissu vraiment à un niveau très bas, des bouts de tissu nerveux à un niveau extrêmement détaillé. L'argument de complexité, on ne peut plus balayer en disant non, mais ce n'est pas assez complexe. Bon, ça me paraît assez difficile à défendre. Alors, de mon point de vue, et peut-être pour faire appel un peu à l'émotion, je dirais que les machines, c'est exactement... On pourrait comparer les machines et de la peinture. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais vu de toile de maître, et quelqu'un vous explique la peinture, où il y a, tu vois, tu as un tableau blanc, puis tu peux mettre des traits de couleur, et après, tout ce que vous voyez, c'est des dessins de gamins de 2 ans. Vous allez avoir une compréhension et un ressenti de ce qu'est la peinture. Et vous êtes d'accord qu'une toile de maître, une toile de Vermeer, vous n'allez pas la décrire en disant « oui, il a donné un coup de pinceau à droite, il a donné un coup de pinceau au chien ». Il y a une complexité, un changement de complexité qui fait que le niveau de réalité ne devient plus le même. Ça ne se décrit plus en termes de coup de peinture et de dire « ah oui, il a mis un coup de pinceau, machin ». Donc voilà, mon premier point serait celui-là. C'est que les machines potentielles, c'est-à-dire qui peuvent exister ou à venir, si on est optimiste sur notre futur technologique, n'ont absolument rien à voir combinatoirement avec ce qui existe. J'ai peur d'être un peu long. Mais... Le deuxième point, c'est la prédictibilité des machines. Donc, pour beaucoup de gens, une machine fait ce qu'on lui a dit de faire. Voilà. Donc, déjà, ça c'est pas vrai, il y a un argument trivial qui est un peu de mauvaise foi, c'est de dire qu'on traîne du hasard dans une machine. Très bien, je veux dire, si vous croyez vraiment ça, il faut jouer au loto. Il y a des processus alors, de hasard dû à des théories de chaos mécanique, mais on peut aussi avoir le bon hasard avec des mesures quantiques et des choses comme ça. En gros, on peut faire une machine, on ne saura pas ce qu'elle va faire. Mais je pense que c'est pas ce que les gens entendent. Le déterminisme, c'est pas juste qu'on jette un dé et puis on fait ce que dit le dé. C'est plutôt, de mon point de vue, une espèce de... J'ai une minute. Diable.
Oui, mais on est flexible.
D'accord. Je vais essayer de... D'accord. Bon. Je pensais que j'en avais au moins 4, que j'allais être que 5 trop long.
4, ça va.
Oui, ok. Très bien. Voilà, donc à mon avis, là, le deuxième point, c'est que les gens envisagent les machines avec une supériorité computationnelle. C'est-à-dire que si vous regardez une horloge, vous savez immédiatement quel est son futur, son passé, et elle n'existe plus en tant que truc qui évolue dans le temps, elle existe comme un machin figé que vous avez immédiatement prévu. Et si c'est effectivement comme ça que vous envisagez les machines, je comprends que ce soit réducteur, il faut comprendre qu'une machine moderne, sans même parler d'apprentissage, une machine moderne est capable de surprendre les humains. C'est-à-dire qu'un jeu d'échecs moderne, un algorithme d'échecs moderne, joue des coups que les humains n'ont jamais joué et qui va surprendre un humain. Un humain va dire « oula, là il m'a bien eu ». Il y a des exemples de trucs très... de planification extrêmement brutaux. Donc des bras robots qui mettent des pièces en place sur des chaînes de montage, donc qui assemblent par exemple des moteurs d'avion. Et ces bras robots viennent prendre des pièces et ensuite vont les placer à l'intérieur. Et il y a un grand jeu, c'est de trouver le chemin pour aller le placer. Parce que comme ça, on peut faire des montages qui coûtent moins cher, qui sont plus denses, tout ça. Et des algorithmes comme ça ont trouvé des manières de monter des moteurs qu'aucun humain n'avait pensé. Alors là, de mon point de vue, c'est peut-être pas un argument qui vous convainc, parce que souvent, ces trucs-là sont triviaux a posteriori. C'est-à-dire, a priori, on ne savait pas comment monter le moteur, mais quand on voit comment il fait, on se dit « ah oui, c'est facile ». Un peu comme les théorèmes de maths. Les théorèmes de maths, c'est toujours dur à prouver, quand on ne les a pas prouvés, puis après on dit « oui, en fait, c'était triviaux ». Mais c'est bon, ça me paraît un peu... Ça me paraît un peu de mauvaise foi, mais donc, en tout cas, le fait est que les machines peuvent donner des réponses qu'on n'avait pas à l'antenne. Et finalement, le troisième point qui est directement mon sujet de recherche, c'est que non seulement les machines peuvent produire des choses non triviales, c'est-à-dire qu'un algorithme qu'on comprend et qu'on a conçu complètement est capable de nous produire quelque chose que nous, en tant qu'humains, on n'aurait pas su produire. Mais avec l'apprentissage statistique, le truc qui fait l'opération lui-même, on ne comprend plus comment il marche. Donc, il faut voir que ce qu'on appelle l'apprentissage statistique, c'est essentiellement le fait de faire des programmes qui s'écrivent tout seuls. C'est-à-dire que, vu le temps qu'il y a, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on définit un programme qui dépend de plein de paramètres, vraiment plein de paramètres. Actuellement, on parle de millions, dizaines de millions, centaines de millions de paramètres. Ensuite, on se donne plein d'exemples d'apprentissage. Donc, la tâche typique que l'on cherche à résoudre avec ces techniques-là, ce serait par exemple de la reconnaissance d'images. Donc, un exemple simple, ce serait vous me donner 10 000 images de visage, 10 000 images qui sont prises d'autres choses, d'armes, de maisons, tout ça. Et il y a des programmes, vraiment, c'est déployé, c'est utilisé, c'est dans votre téléphone, c'est dans votre appareil photo, c'est vraiment comme ça que ça marche. On ne sait pas trop comment ils marchent. Tout ce qu'on fait, on leur donne des règles qui sont paramétrées par plein de paramètres, et le programme va, en regardant ces données, changer un peu ses paramètres en se disant, est-ce que là il m'a dit que c'était un visage, est-ce que quand ce paramètre bouge dans ce sens-là, moi je lui dis que c'est un visage ou pas. Et en gros, ces programmes, ce qu'ils font, c'est qu'ils règlent tous ces paramètres de manière extrêmement brutale et aveugle, c'est-à-dire que c'est vraiment que des règles locales. Quand je dis que vraiment c'est comme ça que ça marche, il y a un truc qu'on appelle la rétropropagation pour les réseaux de neurones, ça revient vraiment à, vous mettez en entrée une image, et en sortie vous savez ce que vous voulez, vous voulez qu'ils vous disent 0 si c'est un visage, 1 si c'est un visage. Il y a plein d'unités au milieu de tout ça, chacune fait un petit calcul très simple, il y en a genre 10 millions. Chacune a des paramètres qui disent quel petit calcul elle doit faire, très simple, un truc en l'occurrence. Et vraiment, l'algorithme bouge un peu les paramètres pour voir comment la sortie évolue. Si on lui, quand on lui met un visage, ça va plus vers 1, il est content, il bouge les paramètres dans ce sens-là. Ça va plus vers 0, il n'est pas content, il les bouge dans l'autre sens. C'est vraiment aussi brutal que ça. Les réseaux de neurones utilisés par Google, Facebook et autres fonctionnent sur ce principe-là, qui est un truc qui remonte aux années 70. Appelle la rétropropagation. Donc, pourquoi je raconte tout ça, c'est que la complexité d'un réseau de neurones artificiels modernes, j'ai regardé les publications récentes, c'est 10 milliards de paramètres. Donc, il y a des réseaux déployés, alors, je ne sais plus, en ce moment, il y a une espèce de course entre Facebook, Google, Microsoft, autour de ça. Donc, j'imagine que c'est soit Google, soit Facebook. 10 milliards de paramètres, et ces trucs-là sont entraînés sans savoir exactement la structure qu'on obtient à la fin. Tout ce qu'on sait, c'est comment on bouge un peu les trucs à chaque fois. Donc on met une image, on bouge un peu, on met une image, on bouge un peu, on met une image, on bouge un peu. On répète ça 10 milliards de fois, ou 100 milliards de fois, et à la fin, on a un truc qui fait ce qu'on veut. Vraiment qui fait ce qu'on veut, ça marche extrêmement bien. Et on ne sait pas pourquoi. On sait qu'est-ce que chaque unité fait, on a une vague idée, mais je vous assure qu'on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire que j'ai des discussions qu'on a, il y a même des sujets de recherche à part entière qui essayent de comprendre qu'est-ce que le truc a codé, qu'est-ce qu'il reconnaît, qu'est-ce qu'il ne reconnaît pas. Ils font des erreurs très bizarres, donc on arrive à les faire planter en leur montrant des trucs, on prend un chien et on essaie de faire la même chose, on change un peu l'image du chien pour que ça ressemble plus vite à un chat, puis après on a un chien qui ressemble encore à un chien, mais je crois que c'est un chat. Donc il y a des trucs très bizarres qui se passent. Toujours est-il qu'à la fin, on a une machinerie énorme qui fait une tâche qu'on lui a uniquement décrite en lui disant « quant à ça, il faut que tu dises ça », et on ne sait pas comment il marche. Voilà. Donc, en termes de mystère, de compréhension et de trivialité des machines, vraiment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Alors maintenant, pour conclure, cher Président, il y a aussi des choses que j'ai vues passer dans les discussions qui, pour moi, sont un peu compliquées. Donc, il y a essentiellement, par exemple, la notion d'émotion et de mensonge. Les gens disent « les machines n'ont pas d'émotion, les machines ne mentent pas ». Alors, les machines ne mentent pas, ça, je suis curieux de voir. C'est-à-dire que si vous faites à nouveau vous faites un algorithme qui doit jouer à un jeu de stratégie, ou au poker, il va vite apprendre à mentir pour gagner, enfin, je peux vous l'assurer, parce que mentir, c'est juste se retenir de l'information quand on est dans une interaction avec un tiers. Et pour ce qui est des émotions, à nouveau, je suis un pragmatique, je détache ça. Si c'est l'aspect expérience consciente, on aura bien un problème que j'aurais du mal à résoudre, et je pense que Ultra va en parler. Si c'est uniquement le fait d'être, par exemple, être fâché ou avoir peur, on peut très bien caractériser ça comme un état d'une machine qui est confrontée à une situation extrême, et il faut qu'elle... C'est un espèce d'état global qui impacte toutes ces décisions cognitives. Alors, pour finir sur ce point, donc de mon point de vue, les machines peuvent potentiellement avoir des comportements qui vont bien au-delà des machines que vous rencontrez tous les jours. Donc il ne faut pas les utiliser comme une espèce comme une manière de juger et de jauger ce que les machines peuvent faire. Et que quelque part, il y a des notions de réalité de niveau différent. C'est-à-dire que vous avez, de la même manière, vous n'y arriverez jamais qu'un humain n'est qu'un paquet de neurones. Vous êtes conscient qu'il y a le neurone, au-dessus il y a une espèce d'information codée dans le neurone, ensuite il y a des émotions codées dans l'information, et ensuite il y a éventuellement le comportement, des choses comme ça. Il ne faut pas il ne faut pas se refuser de faire ça pour les machines. Les machines aussi ont des niveaux de donc, à la fin, plutôt que de condamner l'humain à n'être qu'une machine, je vous invite à accepter que l'humain n'est qu'une machine, mais à reconsidérer ce qu'est une machine.